Radio Silence, bonjour. Nous sommes le lundi 1er novembre. J'aime bien la semaine qui commence lundi par un premier. C'est toujours comme ça de bon augure pour le mois qui s'annonce. Tout recommence. Vous écoutez Flash sur le monde par Élise Mbok pour Radio Silence. Restons dans la lancée de la campagne. De toute façon, en ce moment, elle est déjà lancée. Et tant pis pour ceux qui font semblant de, comment dirais-je, de soit de vouloir la ralentir, soit de jeter des anathèmes sur un candidat en particulier, celui qui vient gêner l'oligarchie. Au point que je lis aujourd'hui que Madame Hidalgo, dans le désespoir total, hein, un peu comme moi, hein, mais moi, vous savez, hein, ça va. C'est pas du tout la même condition. Et elle appelle et qualifie Zemmour de guignol. Oh là là, franchement, ça c'est, si c'est pas un propos désespéré, ça. Donc, je crois qu'elle parle plus d'elle-même que de Zemmour. Et ça m'a rappelé le fait que Nathalie Kosciusko-Morizet avait qualifié elle de concierge, alors qu'elles étaient en compétition pour la mairie de Paris, vous voyez. Et puis, elle avait gagné. Voilà, à ce moment-là, le PS était fort. Nathalie Kosciusko-Morizet, je crois que, comment dirais-je, elle n'avait pas... une très très bonne image, c'est pour ça qu'elle n'a pas eu la mairie, mais elle aurait pu l'avoir, tout comme peut-être aussi Dati, qui était une prétendante au poste et qui a le même profil que Madame Hidalgo, pardon. Donc, mais elle n'est pas concierge, moi je dirais pas ce genre de choses en qualifiant quelqu'un qui, même s'il n'est pas candidat, de guignol. Guignol, oui, il faudrait... le rapporter à des comportements. Et c'est vrai que Madame Hidalgo, j'ai utilisé le mot oligarchie à dessein. C'est vraiment... on a affaire à une oligarchie, hein, politique depuis les années... moi, que je me souviens, les années 80 de Mitterrand. Le personnel politique est devenu carriériste. Le général de Gaulle avait créé l'ENA pour qu'ils gèrent l'État. Finalement, ils sont allés squatter les instances des partis politiques, les instances, voyez un peu, du leadership. Et de là, ils ont découvert qu'ils pouvaient faire des fortunes en termes de d'élection en réélection, ad vitam aeternam, et puis après la retraite, le carnet d'adresse, etc., etc. Bien, ça me rappelle aussi l'autre confession de Madame Pécresse. Moi, je ne sais pas, elle était candidate, je croyais qu'elle était candidate déjà pour elle-même, mais si elle fait partie des Républicains, je crois que c'est difficile, parce que je crois que Monsieur Michel Barnier est... enfin, monsieur le commissaire, il est très bien placé pour remporter cette primaire. Lorsqu'elle dit que De Villepin a dit que c'était que les femmes névrosées qui faisaient la politique, pardon, nous pouvons aussi dire que ce ne sont que des hommes infidèles. Hein, voyez, ces insatisfaits, ces obsédés sexuels, s'il faut qu'on utilise les mots, qui sont des hommes politiques. Regardez, tous divorcés, le nombre de femmes remariées combien de fois. Donc, je vais dire, quand on est Une personne comme celle-là, un obsédé, on n'a rien à dire. On ne peut pas tenir ce genre de propos de femmes névrosées qui font de la politique. Enfin, vraiment, c'est minable. Et c'est décevant de la part de M. de Villepin, qui lui aussi fait du DSK tranquillement dans son coin et personne ne dit rien. Vous voyez, c'est toujours ça. Et c'est pour cela que Zemmour, moi, je dis bravo. Je dis bravo tout en précisant toujours que Jean-Luc Mélenchon sera au second tour maintenant, face à qui? That is the question. Face à qui? Si c'est Zemmour, c'est formidable parce que on aura déjà, il y a une préfiguration. Hein, vous savez, rien n'arrive par hasard. Hein, rien n'arrive par hasard. S'ils ont fait ce premier débat-là comme ça, c'était une préfiguration d'une scène peut-être qui va se rejouer. Alors pour de vrai, ça ne sera plus l'échauffement ou un test amical, là, ça sera vraiment de mano à mano. Ce serait formidable. Ce serait formidable parce que Mélenchon, il est contre l'oligarchie. Zemmour est contre l'oligarchie. Si on peut tourner cette page d'oligarque technocrate qui suce l'État, ben alors là, de Villepin avait eu un mot formidable, qui sont comme un moule accroché à l'eau rocher, qui veulent jamais partir, tout en donnant de leçons aux autres sur comment trouver le travail, sur comment gérer son argent, alors qu'eux, ils claquent des doigts, vous voyez, et tout tombe que dalle, quoi. Voilà. Les promotions, c'est automatique, pilotage automatique. La campagne prend ce virage-là. C'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Oligarchie contre le peuple, oui. On s'étonne, on dit, ah ben Zemmour, il représente pas le peuple. Zemmour, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on croit que Zemmour, il représente une forme de bourgeoisie raciste, façon néocoloniale, Bolloré et tout. Moi, j'ai aucun problème ici avec Bolloré, parce qu'il faut qu'on arrête avec l'hypocrisie de la France-Afrique. Hein. Tous ces oligarques bien pensants assis là, ils ont tous trempé dans la France-Afrique, tous, sans exception, et ils se sont enrichis. Au passage, les uns par les valises de billets, d'autres par d'autres moyens d'influence. Donc tous, autant qu'ils sont, à la fois parce qu'ils appartiennent au même cercle ésotérique en plus, ils ont trempé dans la France-Afrique. Donc c'est trop facile de venir donner des leçons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, oui, pourquoi Bolloré ne ferait pas de politique? Bolloré, c'est qui? Bolloré, c'est la France. Faut pas qu'on vous raconte des histoires, on fait comme si Bolloré était à part et la France-Afrique, ce serait quelque chose de différent. Non, et la France tout court. Bolloré, tout comme Bouygues, il y a des poids lourds comme ça, comme Ennéo qui est ici, comme Orange, ce sont des grosses multinationales qui sont des grands groupes qui continuent à gérer l'Afrique. De façon postcoloniale. Et de toute façon, les dirigeants africains ne trouvent rien à redire, chercher l'erreur. Donc, c'est facile de venir lui faire le procès à lui, Zemmour, d'être un produit Bolloré. Bah, eux tous, c'est des produits françafricains, et la France même est un produit françafricain, en tant que nation. L'Afrique, je ne sais pas. L'Afrique, elle est plutôt, comment on dirait, la poule aux œufs d'or. Donc, vous voyez, on va de faux débat en faux débat. Et c'est pourquoi, vraiment, au lieu de laisser la parole, pour le coup, aux guignols qui sont là depuis, qui, avec la langue de bois, mènent les gens en bateau, laisser la parole se libérer cette fois-ci. Et vraiment, si c'est Zemmour contre Jean-Luc Mélenchon, là, on parlera. Même comme on a commencé à le brider, parce que vous ne pouvez pas dire si, tout d'un coup, oui, c'est l'éloge à M. Pétain, qui était collabo. Ben, il faut contextualiser les choses, hein, parce que au moment de l'occupation de la France, ben, que la France pouvait rien. Elle pouvait rien faire. C'est comme l'Afrique aujourd'hui. Elle peut faire quoi devant la France? C'est-à-dire, quand on parle, il faut aussi savoir de quoi on parle. Il y a une bande, il y avait de la résistance, oui, mais qui pesait quoi devant Hitler? Hitler a même été gentil de laisser cette partie France libre. Du coup, quand on veut parler de ces choses-là, tout de suite aux antisémites et tout, Zemmour pose les vrais problèmes. Pourquoi? Je m'en fous, il est raciste, il n'est pas raciste. De toute façon, en France, tous les blancs, surtout l'oligarchie, hein, tous les oligarques sont des gros racistes. J'en sais quelque chose. Moi, j'ai fréquenté un peu le PS, hein, et d'ailleurs, Madame Hidalgo, je ne sais pas pourquoi elle est candidate. Le PS, il n'en reste plus rien. C'est démembré. Et qui peut rassembler au PS? Même Arnaud Montebourg a fui. Personne, il n'y a plus personne au PS. C'est vraiment, il n'y aura rien. Le PS peut pas être au second tour. Ça, c'est clair. Les Républicains ont une chance, mais pas le PS. Donc, elle fait de la figuration, c'est très bien. Il faut bien qu'il y ait des figurants pour les tournages. Heureusement, on ne les tue pas. Eux, on tue les directrices de photographie. C'est quand même de la photographie, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que je disais? Le racisme. On ne peut pas faire le procès du racisme à certains membres de l'élite française, alors que toute l'élite française, je dis bien toute, sans exception, moi j'ai essayé de les approcher, hein, donc je connais un peu, toutes sont racistes. Un moment ou un autre, le visage va sortir derrière des excuses bidons. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder, non pas le profil des candidats. Les Noirs, ils n'ont pas ce qu'il faut pour être candidats. Ils peuvent déjà pas s'organiser. Et ils sont toujours dans leur mentalité de soumission. On parlera après la mentalité du pauvre. Ici, je voulais surtout, comment dirais-je, parler de cette affaire de racisme dont on accuse. Zemmour. Vous savez, le racisme, il a deux côtés. Il y a le racisme par la condition, parce que les Noirs étaient esclaves, donc des sous-êtres, quelque part, et ça n'a pas duré un siècle, ça a été des siècles. Comme cela, on dit que ce n'est pas les Blancs qui ont commencé, bon, peu importe qui a commencé, mais que ce soit du côté des musulmans qui ont commencé l'affaire, on nous parle du 12e siècle, ou d'il y a 12 siècles, je ne sais plus rien. Ou du commerce triangulaire. Des deux côtés, le blanc est méprisé. Le blanc, le noir est méprisé. Il est méprisé par cela, parce qu'il a servi un peu de bête de somme. Hein, et c'est anthropologiquement, on ne peut pas dire que c'est fondé, mais c'est un peu justifié. Vous voyez, c'était quelqu'un, sauf à faire ce que les Juifs ont réussi à faire, c'est-à-dire qu'eux aussi c'était des damnés de la terre, mais ils ont réussi à transformer cela par des méthodes critiquables, peu importe, et à renverser la vapeur au point où c'est aujourd'hui qui domine les choses. Vous voyez, et ça, le noir, il n'a pas su faire ce que les Juifs ont fait. Le juif menant donc la danse, c'est lui qui dit ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Donc s'il dit ça, c'est antisémitisme, bon, tout le monde dit oui, c'est antisémite. Il faut donc savoir que dans le racisme, il y a la condition. La condition noire, elle est telle que dans le monde entier, le noir est victime de racisme, y compris chez lui, en Afrique. Le blanc vient et il le domine, notamment par la technologie. Bah, que voulez-vous? Celui qui a la technologie, moi je suis pour la justice et la liberté. Celui qui a la connaissance te dominera, point. Et si tu veux t'en sortir, il faut suivre cette voie de la recherche de la connaissance. Et si c'est même le pouvoir, ben bah oui, pourquoi pas? C'est légitime, puisque c'est légitime pour le blanc, donc c'est légitime pour tout le monde. Puis il y a un racisme qui est celui qu'on va appeler de la perception. Vous voyez, les gens, les blancs, on appelle la bourgeoisie, on appelle ce qu'on veut, les autochtones, tout ce qu'on veut, ils connaissent pas forcément qui est noir, qui l'est pas. Mais ils voient les noirs défiler et ils se disent à un moment donné, bah, il y a un effet de saturation, il y en a trop. Il y en a trop. Oui et non. Oui, parce que c'est chacun y perçoit à sa façon, c'est visible. Dans certains quartiers, si on va à Château-Rouge, il y a des zones qui ont été transformées, des quartiers vraiment typiquement, on va dire, noirs. Et qui plus est, ça a été aggravé par le phénomène de ghettoïsation, où on a parqué les gens dans le même quartier. Vous arrivez là-bas, dans le 9-3, vous vous diriez, mais non, mais c'est pas possible, on n'est plus en France. Donc il y a cet effet de perception qui est dû donc à des politiques d'habitat mal gérées et de logement, à des politiques d'intégration ratées, parce que l'élite est raciste. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'aller chercher les preuves très loin. Elles sont devant vous, le type de travail que ces gens font, les abandons scolaires, la qualité des infrastructures où les gens vivent, le fait qu'il y ait un taux de noirs trop élevé dans certaines zones au-delà du raisonnable. Bon, vous voyez, on a essayé de faire la mixité sociale, ça peut pas marcher, parce que comme quelqu'un a dit, ça n'enlève rien à la distance sociale. Du coup, cette perception, c'est vrai, on la comprend. Et une fois qu'on a compris cela, il est normal que certains se disent, bah, il faut, on a un risque là, on a un risque de, comment ils ont dit ça, changement ou de génération, ou je sais plus quoi, enfin de peuplement, le mot m'échappe. On a dit, bientôt, il y aura moins de blancs en France et plus de noirs et d'arabes, du fait que les femmes blanches ne veulent plus accoucher. Et les autres accouchent trop. Donc ce remplacement, voilà, est quelque chose d'insupportable et ce ne sera plus la France parce que si c'est les musulmans, la religion dominante va devenir l'islam. Et si c'est les Africains, bon, ce n'est pas prêt pour les Africains parce qu'ils sont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins nombreux par rapport aux Arabes. Alors, dans ces conditions-là, est-ce que le grand remplacement peut avoir lieu? Ben non! C'est un délire. Mais si ce n'est pas un délire, moi je veux bien, il faut en parler, il faut laisser les gens parler. Parce que ces gens, plus vous les bridez, plus vous empêchez la parole de ceux qui sont sur place de dire que non, nous on étouffe les étrangers, plus on étouffe la parole sur la question de l'immigration, plus les choses vont aller en s'aggravant. C'est-à-dire que le rejet va être clair et catégorique. Donc, ce n'est pas la voie à suivre. La voie à suivre, c'est celle de Zemmour. Peut-être qu'il y a la provocation, mais pas toujours, parce que poser la question ne veut pas dire qu'on l'a résolue, hein. Ce n'est pas Zemmour qui ira faire les enfants aux Françaises, hein. Ou alors, il aura donné du Viagra à tous les Français pour qu'ils s'activent. Et encore, il faudrait que la femme soit d'accord pour en faire plus que deux, ou plus que un. Oui. Quand vous regardez au fond ce qui s'est passé en Afghanistan, dans ce qu'on a présenté comme un départ raté, le départ américain n'a pas été raté. Il a été volontairement organisé et structuré comme ce qui s'est passé à la frontière au Texas pour que les Afghans entrent, hein, en très très grande partie et pour que les Mexicains aussi, les Colombiens, tout ce que vous voulez, l'Amérique du Sud bien blanche entrent et comme cela on est sûr que quoi qu'il arrive, alors même que les Noirs américains ne sont pas, je sais pas, ils sont pas majoritaires aux États-Unis, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de grand remplacement. Vous voyez les stratégies, ce que les démocrates, eux, ils ont fait de façon. Vous voyez, ils ont manipulé tout, ils ont embrouillé tout. Oui, on a loupé le retrait. Mais non, ce retrait n'a pas été loupé. Il a été volontairement loupé pour qu'il y ait une fenêtre qui permette aux Afghans de sortir au nom des raisons humanitaires bidons. La même chose dans la frontière du Texas. Où le mur n'est pas fini, mais on stoppe vite fait, et les gens sont passés, les gens sont passés, mais quand c'est les Haïtiens qui ont voulu venir, vous avez assisté à cela, parce qu'ils sont noirs, on a dit non, 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 on veut pas d'Haïtiens, on veut pas d'Haïtiens. Donc le grand remplacement a déjà été mis en pratique, en exercice par Joe Biden. Hein, sous les yeux de tout le monde halluciné, mais ils ont bien masqué cela par un échec de retrait militaire et par une forme d'incapacité à contrôler la frontière du Texas. Or, la frontière du Texas, On a envoyé Madame Kamala Harris. Monsieur Biden avait dit oui, mais je confie ça à Madame Kamala Harris. Elle va régler le problème. Mais elle n'est même pas allée. Si, elle allait quand Trump a dit qu'il y allait. C'était juste pour faire la figuration. Ils avaient très bien leur plan derrière. Le plan, c'est que il ne faut pas qu'il y ait de grands remplacements. Or, maintenant que Zemmour pose la question, lui, il vient, il la pose autrement, en français. Qui sait pas, parce que l'Amérique, elle est téléguidée, pas elle est téléguidée, elle est conseillée et pilotée par tout ce qui est, je sais pas comment utiliser le mot, mais CIA, FBI, des gens qui sont rusés et des Big Brother qui sont rodés à la machine, à masquer les choses et à les donner pour ce qu'elles ne sont pas. Donc voilà. La France n'a pas ça, elle ne sait pas faire du Big Brother, elle ne sait pas faire du. Comment le dire? Elle ne sait pas faire du Orwell. Elle vient, bon, elle a deux options, soit l'option de l'oligarchie qui dissimule le problème et qui le tait et qui l'étouffe, soit l'option de Zemmour qui vient et qui attaque frontalement et qui dit, voilà, il y a un problème. Donc c'est une question qui n'est pas seulement posée à la France, sûrement, c'est une question qui a été posée au niveau européen, au niveau occidental, et l'Occident est en train de lutter pour qu'il n'y ait jamais de grand remplacement. C'est légitime, ce n'est pas les Africains, parce que les Africains, eux, ils laissent tout faire. Mais ailleurs, on réfléchit. Et peut-être même que cette question qu'on pose de façon plate. En France, comme racisme blanc contre racisme noir, ça va au-delà. C'est question de domination mondiale. C'est le pouvoir blanc qui continue à lutter pour qu'il n'y ait jamais de pouvoir noir ou arabe au-dessus du leur. Voyez? Donc ça rejoint la Russie, ça rejoint la Chine, ça rejoint l'Inde, bien sûr. Donc Madame Kamala Harris à des origines. Bon, voilà. Quand on pose donc la question du remplacement, vous allez agresser Zemmour en tête de mule. Il faut comprendre les tenants et les aboutissants. Et c'est pour cela qu'il faut laisser la parole se déployer. Il faut pas l'arrêter. Et comme ça, on peut parler des choses. Alors, on commence tout de suite. Oui, mais Bolloré, oui, mais Guignol, oui, mais racisme. Et c'est comme ça la France a toujours tourné. Elle n'a jamais rien résolu. On a toujours le problème de l'immigration qui nous pend au nez. Et avec tous les malaises qu'on connaît des deux côtés. À la fois pour les Noirs qui souffrent là-bas, et enfin ils souffrent entre guillemets parce qu'ils sont sous-employés, et puis pour l'Afrique qui s'en sort pas avec la coopération avec la France, et puis pour les Français qui trouvent qu'il y a trop de Noirs alors qu'ils vivent quand même sur la poule aux œufs d'or. Vous voyez, c'est tout ces mélanges, il faut en parler. Pourquoi on n'en parle pas? Celui qui va en parler, on le traite de guignol. Pardon? Alors maintenant, je vais terminer là-dessus. Bon, d'abord, avant de terminer, je vais dire qu'on est en Amérique, avec le Covid-19, il y a beaucoup. Vous savez, M. Biden a imposé de force sa loi. Il n'est pas passé par un vote au Parlement. Il a pris la décision que celui qui ne se fait pas vacciner, il est viré du boulot, privé ou public. Ce n'est plus le Arbeit qui McFly. Maintenant. C'est le Arbeit qui te fait esclave. Voilà, il te fait esclave ou alors il te fait pauvre, il te fait misérable. Il y a 19 États qui ont porté plainte contre cette façon de faire parce que eux, ils veulent pas appliquer ce mandat où le masque à tout prix, sans qu'on regarde quelles sont les alternatives. Et puis, ça fait un moment que ce Covid dure. À un moment donné, il faut laisser la maladie bon passer, même comme on nous dit aujourd'hui que la porte-parole, la Maison Blanche, est testée positive. Bon, ben, vous voyez, c'est délirant, ça s'arrête pas. Le but final, comme eux, aux États-Unis, savent faire, on ne sait pas. On ne sait pas quel est le but final de cette histoire du Covid-19. On ne sait pas. Peut-être un jour qu'on saura, parce que ça prend des allures. Il a fallu l'inventer, ce virus, le créer. Après l'avoir créé, il a fallu s'en servir pour tricher les élections. Après, pour mettre quelqu'un qui viendrait justement appliquer une politique qui serait avantageuse pour les big pharma, pour se faire. Vous voyez, pendant que les gens meurent, les gens sont obligés d'aller se faire vacciner. Le Big Pharma fait des bénéfices énormes. Fait des bénéfices énormes. Et nos hommes politiques sont pris dans les Pandora Box. Papers, tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est que. Ils n'en ont même pas parlé, hein, là, au G20, on a dit. Ah bon, voilà. Les multinationales seront taxées maintenant pour un minima de 15%. Oh là là. Merci. Ben, ici en Afrique, elles sont taxées de plus. Elles sont taxées de plus que ça. Parce que là aussi, c'est comme pour l'affaire de l'immigration, on ne veut pas dire les choses. On arrive, on fait des déclarations à l'emporte-pièce comme celle-ci. Les paradis fiscaux, c'est 12%. Si vous taxez à 15%, ben, ça veut dire que le monde entier devient un paradis fiscal. Quelqu'un l'a dit. Et d'ailleurs, Joseph Stiglitz et Monsieur Piketty, je croyais un troisième économiste, ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. N'étaient pas d'accord. Les Africains aussi ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Il faut taxer dans les 25%. Et encore, c'est gentil parce que quand une multinationale arrive en Afrique, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Elle tue la concurrence. Elle tue la créativité et quand elle arrive, il n'y a pas de transfert de technologie, donc il n'y a pas une date de péremption, une date de départ. Et elle fait un bénéfice incroyable, elle est en situation de monopole. Donc, situation de monopole, concurrence tuée, hein? Ça fait combien? Ah, et puis vous venez, vous dites qu'il faut 15% de bénéfices, je ne sais pas, de taxes. Mais c'est la rigolade, la rigolade. L'exploitation toujours, l'exploitation toujours. Et bon, ils n'ont rien trouvé sur le climat, ben ça c'est évident, il faut que chaque pays reboise. Ça c'est l'Afrique a coupé les arbres de façon sauvage. Je suis arrivé ici, j'étais traumatisé. Les villes sont sèches, Yaoundé, il n'y a pas d'arbres, c'est irrespirable. S'il fait chaud, c'est terrible. Il n'y a pas de jardin public digne de ce nom, c'est pareil. Il y a un petit jardin public, on a un petit jardin public en centre-ville, là, vers l'immeuble à Jal. Bon, il est trop petit pour pouvoir contenir du monde, mais bon, ça satisfait. Et je termine donc sur la psychologie du peuple populaire qui peut faire en sorte que les choses déraillent. C'est-à-dire que, vous savez, le pauvre, l'homme du peuple, parce que j'aime pas le mot pauvre, l'homme du peuple, pauvre, c'est péjoratif, l'homme du peuple est partagé entre sa colère sur sa condition, sur les injustices qu'il subit, et aussi son admiration incroyable qu'il voue pour l'oligarchie et toutes les stars et tous ceux qui se font un fric précisément sur son dos. Voyez? Donc il est difficile. Pendant longtemps, le PSA, c'était ça le vivier du PS. Il jouait sur cette psychologie des immigrés qui regardaient ces élites-là comme Dieu sur terre, voyez, prêts à tout, ces immigrés, parce que chacun allait au PS comme des aveugles. Et il les admirait, ces hommes politiques du PS, en même temps, quand ils votaient pour eux, le politique du PS où la femme n'avait... Comment je vais dire? N'avaient rien à cirer de leur gueule après le vote. Donc, ils tenaient plus compte d'eux, ils les ignoraient. Et ça a duré comme ça depuis les années 80. Et les immigrés, tout bêtes, ils ne faisaient que suivre le PS. Et puis après le PS, ils ont suivi Macron. Voilà, parce que Macron était jeune. Là aussi, c'est pareil, l'admiration du jeune qui a 39 ans. Oh là là, il y arrive, il est président, mais ça ne se passe pas comme ça, hein, Coco. Lui fait partie d'un cercle, vous n'y êtes pas. Donc, vous n'allez jamais reproduire le schéma de Macron. Donc, ils sont toujours dans une forme d'attitude béate comme ça, dans les béatitudes, oui, ils admirent le pouvoir, ils admirent l'argent, ils admirent les ornements, ils admirent, vous voyez. Et après, ils s'étonnent que. Ils n'ont rien, ils n'ont rien, mais parce qu'il ne s'agit pas de se poser comme ça, non seulement soit en victime, soit en idolâtre, il faut faire quelque chose. Et en l'occurrence, là, il faut aller voter Mélenchon. Voilà, ça fait depuis que vous devriez le faire, vous ne l'avez pas fait parce que tous les autres, bon, Mélenchon, il a fait partie de l'oligarchie. Bah, heureusement, Zemmour aussi, parce qu'il faut faire partie de l'élite pour mieux les connaître, les combattre de l'intérieur. Sinon, comment vous pouvez faire? Vous ne pouvez pas combattre ces gens-là de l'extérieur. C'est une muraille. Donc de l'intérieur, vous pouvez briser beaucoup de chaînes. De tous les candidats qu'il y a là, bon, Madame Le Pen, c'est même pas la peine. Je ne sais même pas pourquoi elle se représente. Elle est usée, elle ne peut pas faire un débat. C'est pas la peine. Il ne s'agit même pas de vote utile ou inutile, c'est un vote idiot. C'est pas la peine. Madame Hidalgo, c'est pas la peine. C'est rien. De toute façon, elle n'a pas de voix. Il ne peut rien faire. Bon, après, Monsieur Montebourg, il fera ce qu'il fera. Tous les autres candidats, vous pouvez toujours vous disperser. Mais ce sont moi, le premier tour. Hein. Vous votez pour qui vous voulez. Ne faites même pas de vote utile. Ça sert à rien. Il faut que les gens sachent ce qui pèse en vrai. Et les gilets jaunes, pardon, j'étais surprise. Les gens que Macron a traités comme du bétail, maintenant, ils en veulent à Zemmour. Oh là là, de toute façon, les gilets jaunes sont perdus. Bon, qu'ils aillent peut-être voter Madame Hidalgo, c'est mieux, hein, c'est mieux parce que comme ça aura du sens. Sinon, leur histoire, ça n'a plus de sens. Et c'est comme ça que les combats populaires se perdent dans le n'importe quoi. On ne sait plus trop ce qu'ils voulaient, s'ils sont pour Macron après l'avoir combattu à mort, au point de vouloir casser la France. Non, ils ne sont plus pour Macron, maintenant ils sont anti-Zemmour, pour des questions de racisme. Mais la question qui se posait pour les Gilets jaunes, ce n'est pas le racisme. Hein. Et de toute façon, eux-mêmes, parce qu'il faut que je termine avec ça, la classe populaire même blanche est raciste. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous, je sais pas, faut pas embrouiller les gens, faut pas les prendre pour plus idiots qu'ils ne sont. Laissez Éric Zemmour ouvrir les vannes pour que les gens s'expriment. On appelle ça la catharsis, ça a toujours existé depuis la Grèce, pour que les gens se libèrent. Hein, s'il y a quelque chose, bon, on crève l'abcès, on en parle. Tranquillement. Oui, ça ne sera pas tranquille, hein, parce que la question de l'immigration, ça vient avec beaucoup de passion. Mais alors, la passion, et alors, ouais, le problème, la France est rentrée dans une forme d'hypocrisie aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Si vous dites la moindre chose, paf, on vous tape dessus, allez, exclu, vous ne serez plus là. Bon, vous avez tout compris. Ça, c'est le commentaire que je pouvais faire aujourd'hui sur l'élection présidentielle française. De toute façon, Zemmour sera candidat au point où il en est, hein, qui ne se pose même pas la question de savoir où l'argent viendra. Il y aura de l'argent parce que de l'autre côté aussi, il y a des immigrés qui en ont aussi marre de certains comportements de leurs de leurs compatriotes immigrés. Vous voyez? Non, la chose n'est pas simple. Il n'y a pas que le blanc qui en a marre du noir. Il y a aussi le noir qui est exaspéré par son frère. Bon, voilà. Il y a beaucoup de choses. Pourquoi chaque fois on dit non, non, on ne parle pas. Il y a des noirs qui ont voté Marine Le Pen justement pour cela, pour qu'elle mette un peu de l'ordre dans l'immigration. Quand Zemmour vient le dire, c'est mauvais. Et quand Marine Le Pen le disait, c'était peut-être bien. Alors, on est hypocrite. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde par Élise Mbock. Je vous dis à bientôt.